Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Les funérailles du prince Philippe auront lieu samedi prochain au château de Windsor. Le prince Harry assistera à la cérémonie, mais pas son épouse Meghan Markle, enceinte, précise Buckingham. Cérémonie retransmise à la télévision. La polémique sur les restaurants clandestins. L'ancien ministre Brice Hortefeux a participé à un déjeuner de ce type fin mars. Un déjeuner professionnel, pas clandestin. Brice Hortefeux, député européen, plaide la bonne foi. Des aides exceptionnelles promises par Jean Castex pour les agriculteurs touchés par l'épisode de gel. Nous sommes à vos côtés, leur dit le président Macron. Laurent Kramer dans un instant. Dans ce journal également, maintien ou ultime report des régionales, le gouvernement consulte. Et puis notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon, Ma vie connectée, consacrée ce soir aux artistes femmes peu souvent exposées. La météo pour demain, de la pluie de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Lorraine. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Tenez bon, tweet cet après-midi Emmanuel Macron aux agriculteurs touchés par un épisode de gel dévastateur. Nous sommes à vos côtés et nous le resterons, écrit le président sur Twitter. La météo de ces derniers jours a été un cauchemar, notamment pour les viticulteurs et les arboriculteurs. Plusieurs centaines de milliers d'hectares de culture ont été détruites par un gel brutal. Et ce matin, le Premier ministre Jean Castex a promis des enveloppes exceptionnelles. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Des aides exceptionnelles et le fonds d'indemnisation des calamités agricoles qui sera déplafonné.
Et Jean Castex au chevet des viticulteurs et arboriculteurs, ici en visite dans une exploitation ardéchoise, souligne que la France doit véritablement s'adapter aux risques et aux phénomènes climatiques qui frappent les agriculteurs. Le gouvernement assurera ses responsabilités, souligne le Premier ministre.
J'ai tenu immédiatement à manifester par ma présence ici la solidarité du pays. Le ministre de l'Agriculture a sans délai engagé le dispositif de calamités agricoles dont je vous annonce qu'il sera déplafonné.
Jean Castex promet également une aide exceptionnelle de l'État déplafonnée. Ce fonds d'indemnisation n'a pourtant rien d'exceptionnel, souligne le vice-président de la FNSEA, Étienne Ganduro.
C'est pas des dispositifs exceptionnels. Le déplafonnement du fonds des calamités est une bonne nouvelle, mais c'est un outil qu'on connaît et qui est difficile à mettre en œuvre pour certaines productions et qui prend pas en compte tous les dommages. Donc il faudra actionner tous les autres leviers. C'est surtout le suivi et puis la pugnacité qu'on mettra à faire respecter la parole du Premier ministre qui nous permettra de faire bouger les lignes.
Une négociation pour déterminer le montant de cette aide exceptionnelle promise par le Premier ministre s'engage donc avec les services de l'État. Les pertes s'annoncent colossales et les agriculteurs redoutent que les aides ne soient pas à la finalité à la hauteur et à l'attendue des dégâts. Les reports de charges, les facilités de crédit et autres dispositifs ne suffiront pas, prévient la FNSEA.
Laurent Kramer, merci. Et auparavant, Jean Castex a visité le vaccinodrome Gerland à Lyon. Il est reparti à l'offensive sur la vaccination avec AstraZeneca. Le Premier ministre a expliqué qu'il voulait convaincre les Français d'accepter à nouveau le vaccin. Le docteur Luc Duquesnel, médecin généraliste à Mayenne et président de la branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français, s'était déjà opposé à la suspension provisoire du vaccin AstraZeneca aujourd'hui en proposant une dose de vaccin différent aux moins de 55 ans ayant déjà reçu une première injection d'AstraZeneca. Cela, dit-il, va compliquer la campagne de vaccination.
Tous ces patients de moins de 55 ans qui ont été vaccinés par le vaccin AstraZeneca, il va falloir qu'on s'assure d'avoir les doses disponibles de vaccins ARN messagers puisque ces personnes seront à vacciner soit avec le vaccin Pfizer, soit avec le vaccin Moderna. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à convaincre nos patients de se faire vacciner par le vaccin AstraZeneca, qui va avoir aussi une incidence pour les patients qui sont éligibles de plus de 70 ans, de plus de 75 ans, qui ne sont pas encore vaccinés. Il y en a qui ont des rendez-vous que dans un mois et demi, parce qu'on a une vraie pénurie des vaccins ARN messagers. Eh bien, globalement, ça va encore retarder la vaccination par le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna de personnes très fragiles à haut risque.
Le docteur Luc Duquesnel avec Jules Dequis. C'est dans ce contexte de pandémie, irons-nous aux urnes les 13 et 20 juin prochains pour élire conseillers régionaux et départementaux? Le calendrier des régionales divise la majorité. Maintien ou ultime report? C'est mardi que Jean Castex dévoilera officiellement la position du gouvernement devant les députés, suivi d'un débat à l'Assemblée, puis mercredi au Sénat. Après les recommandations du Conseil scientifique, le gouvernement s'est prononcé pour le maintien à ce stade du scrutin, mais il continue de multiplier jusqu'au bout les consultations sans parvenir à lever tous les doutes, Yael Gauze.
Les nuages sont de retour et tout le monde sort son parapluie. Le traumatisme des municipales l'an dernier a laissé des traces. En Conseil des ministres, mercredi, Emmanuel Macron n'a pas tranché. « Je suis le garant de la vie démocratique », a-t-il dit. « Je me tiens à distance de ce sujet pour ne pas interférer ». Le président s'en remet à Jean Castex et considère que c'est aux élus de terrain de dire si ces élections peuvent se tenir en juin. Autrement dit, tout le monde doit se mouiller. Matignon a donc demandé leur avis aux grandes associations de maires, départements, régions. Elles ont répondu jeudi soir dans un courrier commun, oui, favorable au 13 et 20 juin, avec des conditions de sécurité sanitaire renforcées. Ce courrier n'aura pas suffi, puisque hier soir, comme une ultime précaution, Jean Castex passe par les préfets pour consulter directement les maires. Indiquez-moi par oui ou non si les conditions vous semblent réunies. Prière de répondre avant lundi midi, car ensuite, Jean Castex est au Parlement, mardi et mercredi. A priori, il y a peu de chances que ces élections soient encore décalées à octobre, mais un allié puissant d'Emmanuel Macron, le Modem, fait campagne. Et le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a même écrit jeudi au Premier ministre « Prime injuste au sortant, abstention, campagne tronquée » sont autant d'arguments à ses yeux qui justifient toujours un report.
Yael Gauze, merci. Les soirées clandestines, préoccupation en ce moment des forces de l'ordre. La police est intervenue la nuit dernière dans un restaurant du 19e arrondissement. 110 personnes ont été verbalisées. Et cet après-midi, Brice Hortefeux a reconnu avoir participé à un déjeuner professionnel avec l'éditorialiste Alain Duhamel. Cela n'avait rien de clandestin, selon l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui député européen. Un déjeuner organisé par le chef Christophe Leroy dans un appartement parisien, Adrien Beck.
C'est l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy qui invitait le journaliste Alain Duhamel. Le déjeuner aurait dû se tenir au siège des Républicains, où le député européen dispose d'un bureau. Il change finalement d'avis. Quelqu'un que je connais depuis toujours m'a proposé d'organiser le déjeuner dans un club avec un traiteur, confie Brice Hortefeux à France Info. Je demande si c'est bien légal, on me répond que oui. Voilà les deux hommes et d'autres convives dans une pièce à part d'un appartement parisien privé. Ce n'était en aucun cas un dîner ou une soirée. Les règles sanitaires ont été respectées. On était moins de 6, poursuit l'ancien ministre de l'Intérieur. Un déjeuner qui en tout cas tombe mal alors que le chef Christophe Leroy a été entendu hier par les policiers dans l'affaire des dîners clandestins du Palais Vivienne. Brice Hortefeux, lui, plaide la bonne foi. Si ce n'est pas légal, dit-il, j'ai été abusé.
Adrien Beck, 41 coups de canon tirés dans tout le Royaume-Uni en hommage au prince Philippe, mort hier à l'âge de 99 ans. Quarante et une salves tirées à une minute d'intervalle au même moment à Londres, Cardiff, Belfast, Édimbourg ou encore Gibraltar. On vient de perdre la moitié de la couronne. Les Britanniques et le Royaume-Uni en deuil ont rendu hommage avec émotion au prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth II. Sur place à Londres, Laura Calmus a recueilli le témoignage de Sandy Kaufman qui était venue rendre hommage au duc d'Édimbourg.
He's been with us forever, ever since we were, you know, first born. And he must, they must be the people
that we know most about. Il a toujours fait partie de notre vie. Depuis qu'on est né, au fond, c'est le couple qu'on connaît le mieux. On a entendu et on a lu tellement d'histoires sur eux. Bien sûr que nous sommes tristes, mais il avait tout de même 99 ans. Il a eu une belle vie. On aurait juste aimé qu'il fête ses 100 ans.
He always had to be one step behind the Queen. However,
il devait toujours être un pas derrière la reine, mais il avait énormément d'influence sur elle. Elle n'aurait jamais accompli autant sans lui. C'est comme moi avec mon mari. On se connaît depuis toujours. Elle a besoin d'être une femme, une mère et une épouse, mais aussi de parler de ses inquiétudes avec quelqu'un qui la connaît bien. Et puis, c'était le premier homme au foyer. De nos jours, c'est plus courant.
Et les funérailles du prince Philippe auront lieu samedi prochain au château de Windsor. Le prince Harry assistera aux funérailles, mais pas son épouse Meghan Markle, enceinte, précise Buckingham. Une minute de silence sera observée dans tout le pays au début de la cérémonie. On passe au football avec la 32e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 à Strasbourg cet après-midi. Ce soir à 21h, Montpellier reçoit Marseille. Et puis à la même heure, mais de l'autre côté des Pyrénées, un match au sommet du championnat espagnol. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone. Les deux géants espagnols s'affrontent dans un classico qui pourrait décider du titre, Stéphanie Mora.
Rarement, madrilènes et catalans se sont retrouvés dans la nasse en même temps. Pour le Real, l'automne et l'hiver sont minés par les résultats en demi-teinte et côté Barça, par la crise de la présidence et l'avenir de sa star, Messi. À ce moment-là, les deux entraîneurs, Zidane et Koeman, semblent au fond du trou. Mais ce printemps sonne la renaissance. Barcelone a retrouvé de l'allant depuis sa déconvenue en Ligue des Champions contre le PSG. Les Catalans, toujours en lice pour la Copa, peuvent enfin s'appuyer sur un trio d'attaquants qui fonctionne avec Dembélé, Messi et Griezmann. À Madrid, on s'est rassuré cette semaine avec la victoire sur Liverpool, malgré l'absence de Varane et Ramos en défense. Zidane peut donc de nouveau espérer briller en championnat et sur la scène européenne. Ce soir, le vainqueur de ce classico prendra une bonne option pour le titre. L'Atlético, le leader, joue à l'extérieur. Il ne compte plus qu'un point d'avance sur Barcelone et trois sur le Real. La soirée promet d'être d'autant plus chaude qu'à l'aller, les Merengues l'avaient emporté au Camp Nou 3-1. Les Catalans, même s'ils ne le crient pas trop fort, entendent bien laver l'affront.
Stéphanie Mora, merci. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et Mavie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Et ce soir, vous vous intéressez aux artistes femmes. En 2019, moins d'un tiers des artistes exposés en France étaient des femmes. Et vous avez, Christine, notamment suivi le MOOC, Femmes peintres, à travers les âges, de la réunion des musées nationaux Fondation Orange.
Oui, ce cours en ligne accompagne une exposition du musée du Luxembourg que vous ne pouvez pas voir en ce moment. Les femmes peignent, savez-vous depuis quand en fait, Frédéric ?
Depuis toujours.
Bien, bonne réponse. Elles ne l'ont cependant pas fait tout le temps avec les mêmes conditions. Exemple, en 1648, en France, est créée l'Académie royale de peinture. Mais là, tous les artistes ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ce que nous dit Sonia Brunel, l'une des historiennes qui a conçu ce MOOC.
L'Académie royale acceptait les femmes. Alors, très peu quand même, hein. Il faut quand même pas voir qu'il y avait une parité à l'époque, mais elles ne pouvaient pas enseigner à l'Académie royale, même si elles étaient reçues au sein de cette académie, tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas enseigner le nu et qu'elles ne pouvaient pas représenter le nu.
Pas de nu, donc, de peinture d'histoire possible pour elle. Et comme le genre de la peinture d'histoire a été considéré comme un nec plus ultra, eh bien les femmes n'ont pas eu la même reconnaissance.
Alors ceci étant, certaines ont bravé ces conventions, évidemment, et on l'apprend en suivant ce cours. Il y a un long et précieux travail de documentation à faire pour retrouver toutes ces femmes artistes et la diversité de leur parcours. L'historienne de l'art Françoise Besson en donne des exemples.
Leurs œuvres ont parfois été réattribuées à des artistes masculins. Et donc, actuellement, il y a vraiment tout un ensemble de recherches et de travaux qui visent à réattribuer les œuvres et donc à revaloriser la place de ces femmes dans l'histoire de l'art. Bon, ben, ça a commencé à la fin du 19e siècle avec un tableau de Judith Lester en particulier qui avait été attribué à Frans Hals.
Et ce tableau de Judith Lester s'appelle « La joyeuse compagnie ». Il est actuellement dans les collections du Louvre.
Femmes peintres à travers les âges, c'est un MOOC à retrouver sur le site du Musée du Luxembourg et sur le site de la Fondation Orange. Et sur franceinter.fr, ma vie connectée, Christine Siméon, merci. Le temps pour demain.
La météo avec les meubles Gautier. Imaginés, dessinés et fabriqués en France pour durer. Intemporel et élégant. À retrouver en magasin et sur gautier.fr.
Jean-Michel Golinski.
Demain, le front pluvieux qui a survolé aujourd'hui la moitié nord du pays va s'enfoncer le matin vers les Pyrénées, le Massif central et le nord-est, puis gagner au fil de la journée vers le Jura et les Alpes en donnant pas mal de précipitations à son passage, de la neige en moyenne montagne, puis à plus basse altitude dans la nuit de dimanche à lundi, et même des coups de tonnerre l'après-midi à proximité du relief. Autour de la Méditerranée, le temps sera faiblement pluvieux et le vent modéré. Sur la moitié ouest du pays, à l'ouest d'un axe Hauts-de-France, Bassa Parisien, Centre, Val-de-Loire, Aquitaine. C'est un ciel d'averse qui va survoler la plupart des régions avec l'après-midi une tendance au grésil et à l'orage sur les départements côtiers. L'air doux entre 16 et 19 degrés va se réfugier près de la Méditerranée et le long des frontières de l'Est. Ailleurs, les maximales vont perdre par rapport à la veille. La baisse sera plus sensiblement ressentie sur les régions du quart sud-ouest. Et puis, en début de journée, des gelées blanches en campagne sont possibles dans la moitié nord.
Jean-Michel Golinski de Météo France.